Les films qui ont changé nos regards, Michel Halberstadt.
Bonjour, bienvenue dans la 8e émission de notre série de 10 films qui ont changé notre regard. Le film d'aujourd'hui, il a fait bien plus que de changer nos regards. Il nous a fait entrevoir l'avenir. Il nous a offert un des raccords les plus célèbres du cinéma, entre un os dont un singe a fait une arme et le fuselage d'un vaisseau spatial. En septembre 1968, un an avant le premier pas de l'homme sur la Lune, ce film nous a offert l'espace, Jupiter, un trip vers l'infini. Il nous a appris que le premier sens de l'homme, c'est le toucher. Il nous a fait découvrir un monolithe noir, lisse, massif, indéchiffrable. Un film aussi expérimental que populaire, un objet unique dans l'histoire du cinéma, un voyage dans l'immensité de notre conscience, un western sidéral, un conte métaphysique, et oui, bienvenue dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Pour en parler aujourd'hui avec nous, le réalisateur Nicolas Saada, bonjour.
Bonjour.
Alors la radio, vous connaissez bien, puisque vous avez présenté durant plus de 10 ans Nova fait son cinéma, une émission consacrée aux musiques de films. Puis vous avez travaillé au sein de l'unité Fiction d'Arte, aux côtés de Pierre Chevalier. C'était une pépinière de talents dans les années 90 qui a révélé entre autres Claire Denis, Patricia Mazui, Cédric Kahn. Vous avez aussi écrit au Cahier du cinéma où vous teniez une chronique sur le cinéma américain et asiatique. Ensuite, vous avez coécrit des scénarios avec Pierre Salvadori et Arnaud Desplechin, qui sera notre invité demain. En 2004, votre premier court-métrage, Les Parallèles avec Mathieu Amalric et Géraldine Pellas, est nominé au César du meilleur court-métrage. En 2009, place à votre premier film, Espion, avec Guillaume Canet, qui concourt pour le César et le Deluxe du meilleur premier film. En 2012, vous tournez le court Aujourd'hui avec Bérénice Bejo et l'apparition de Frédéric Wiseman. C'est votre vision de la fin du monde. En 2015, vous partez en Inde tourner Taj Mahal avec Stacy Martin et Louis Do de Langsin. Le film est sélectionné au festival de Telluride et de Venise. En 2016, vous êtes à Hong Kong et vous réalisez un court-métrage Hong Kong Solitude qui me serre le cœur chaque fois que je le regarde. En 2018, vous réalisez une mini-série Thanksgiving et vous êtes désigné meilleur réalisateur au festival de télévision de Luchon. En 2019, vous publiez Questions de cinéma, entretien et conversation. Enfin, en 2020, vous réalisez un court qui s'appelle Quizas. Quizas, comme le titre de la chanson de Nat King Cole, c'est une lettre de cinéma que vous avez réalisée pendant le confinement et dans laquelle vous assemblez très délicatement des solitudes de cinéma pour transformer votre expérience en balade cinéphile. Vous avez une passion pour 2001, l'Odyssée de l'espace. D'ailleurs, c'est drôle, quand je préparais l'émission et que je donnais la liste de mes 10 films à mes invités, plusieurs m'ont dit « Ah bah pour 2001, il n'y a que Nicolas !» Ce qui veut dire d'abord que le film les intimidait beaucoup et ensuite qu'ils estimaient que vous, vous seriez à la hauteur de la tâche. Alors Nicolas Saada, comme dirait Luc Lagier dans l'émission Blow Up sur Arte, c'est quoi 2001 pour vous ?
2001, pour moi, c'est très curieusement, c'est la liberté absolue de création d'un cinéaste qui produit et réalise ce film. Et c'est étrange parce qu'on dit toujours de Kubrick que c'est un obsédé du contrôle, c'est un perfectionniste. Et chaque fois que je vois le film, moi, ce qui me frappe toujours, c'est sa liberté, quoi. Sa liberté de narration, sa liberté plastique, sa recherche. Il y a 25 minutes sans dialogue avant le premier dialogue, quand même. Et moi, je suis un fou de ce film et j'interdis mes amis qui ne l'ont jamais vu de le voir à la télévision, par exemple. Donc, moi, ça peut être un sujet de fâcherie quand quelqu'un me dit « J'ai essayé de voir 2001 à la télévision, j'ai pas réussi. » Je dis toujours « Il faut le voir au cinéma. »
Non, mais heureusement qu'ils réussissent pas à le voir à la télévision, c'est bon signe.
C'est vraiment un film qui est indissociable de l'expérience cinématographique. Il faut vraiment être dans une salle et construire un rapport avec ce film. Et à chaque fois, c'est jamais le même film. Voilà, à chaque fois, je remarque des choses qui m'avaient échappé la première fois.
Et pourtant, c'est pas faute de le voir.
Une fois qu'il sort en salle, je vais le voir. Là, je me suis projeté pour en reparler avec vous. C'est un film qui me fascine. Fascine parce que il y a quelque chose d'extrêmement banal dans cette façon de présenter le futur. C'est-à-dire qu'on a devant nous des choses qui n'ont pas été filmées. L'aube de l'humanité n'a pas été filmée. Et à l'époque, le futur n'existe pas. Mais pour Kubrick, c'est comme s'il avait déjà existé. Donc c'est un film qui me plonge à chaque fois dans un état vraiment second. J'ai l'impression que tout ce que je vois est à la fois le produit d'imagination de Kubrick et en même temps quasiment un documentaire sur quelque chose que seul lui aurait vu. Voilà.
Alors, au départ de ce film, il y a la rencontre de Stanley Kubrick avec Arthur C. Clarke, une rencontre qui a eu lieu à New York. Mais oui, il fut un temps où Kubrick était à New York. Pour nous, il est toujours en Angleterre, mais il a quand même été à New York dans les années 60. Cette rencontre a été curieusement organisée par l'attaché de presse de Dr. Follamour, un monsieur qui s'appelait Roger Carras. Et l'idée de Kubrick, c'était de mettre en image la nouvelle qu'avait écrit Clarke qui s'appelait « La Sentinelle ». Alors Arthur C. Clarke, c'est un écrivain, un explorateur. Il a aussi inventé des satellites de communication. En gros, on peut dire que c'est un génie. Et d'ailleurs, Kubrick en parle avec beaucoup de respect.
Arthur C. Clarke arrive à saisir notre désir vain, mais admirable, de comprendre les mystères du temps et de l'univers.
Reach for things that they can never, you know, really reach or reach back, and you know, it's very hard to say it exactly, but the sense of sadness.
Il nous transmet toute la tristesse et la poésie du passage du temps.
Sort of loneliness of
notre solitude.
Worlds. I mean, he manages. I tell you what he also manages to do. He can take
Il parvient à prendre une étoile, ou un soleil, disons, comme dans une de ses nouvelles, ou même une galaxie, et en faire une chose très poignante, vivante. Il écrit sur les montagnes, les planètes, les mondes, comme d'autres le font sur les enfants ou les histoires d'amour.
Rendre l'univers aussi émouvant qu'une histoire d'amour, est-ce que c'est ça aussi, 2001 ?
Dans 2001, ce qui est très beau, c'est que il y a une phrase de Godard que vous avez rencontrée, je crois, Alain Michel,
oui,
hein, pour la 10e émission.
Voilà, qu'on entendra vendredi.
Je suis tombé sur une phrase de Godard le jour qui disait « Ce que je recherche, c'est le définitif par hasard. »
Absolument.
Et j'ai l'impression que Kubrick, c'est exactement l'inverse. Voilà. J'ai l'impression que sa quête, c'est la quête de l'incertitude, la quête de l'incertain, la quête du questionnement. Et c'est un paradoxe dans la mesure où ce sont des films qui sont archi-recherchés, archi-travaillés. Et en ayant ça, je pense que c'est son admiration pour les savants, elle se comprend, parce qu'il y a quand même un point commun entre le savant et les artistes, c'est que ce sont tous deux des chercheurs. Je pense que Kubrick, c'est quelqu'un qui cherche sans pour autant savoir s'il va trouver ou pas. Mais quand on l'accompagne dans cette recherche, c'est tellement fascinant. Et 2001 me fait cet effet-là. D'abord, j'ai l'impression que je vais au cinéma pour la première fois quand je vois un film comme 2001. C'est-à-dire que j'ai du mal à imaginer quand je vois 2001 qu'on est en 68 et qu'autour de ces films, de ce film, il y a d'autres films. C'est un des rares cinéastes qui me donne cet effet-là avec Chaplin. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils ont tous les deux ces 12 longs-métrages. Et chaque fois que je vois un film de Chaplin ou Kubrick, j'ai l'impression que je ne peux pas dire « Ah, ben à la même époque, il y a tel cinéaste qui fait tel film, donc ça a dû l'influencer. » J'ai l'impression que je rentre dans les cerveaux de ces cinéastes. C'est extraordinaire quand même. Et je pense qu'il y a cette idée de... Donc c'est pas lui, il ne recherche pas le définitif par hasard, je pense qu'il recherche le hasard définitivement. Et c'est ça qui est absolument fascinant de 2001.
Alors le film au début donc aurait dû s'appeler Sentinelle comme la nouvelle de Arthur Clarke. Après ça a été Journey Beyond the Stars. Après 2001 l'Odyssée de l'espace, Odyssée d'après Ulysse dont le nom grec est donc Odysseus. C'est une œuvre musicale sans aucune psychologie. Il y a donc des dialogues seulement au bout de 25 minutes comme vous disiez. On a des sons, on a de la musique, on a le raccord le plus célèbre du cinéma. En tout cas, après l'allumette de Laurence d'Arabie qui se transforme en lever du soleil. Et donc ici, simplement l'image, eh ben, c'est un singe qui lance un os vers le ciel. Donc ça, c'est un singe qui se bagarre avec une bande rivale. Il lance l'os. Et l'os, d'un seul coup, se transforme en navette spatiale. On voit le vaisseau, on voit la Terre. La Terre qui prend toute la place. Et la Terre qui maintenant est toute petite. On a vu le soleil derrière elle et maintenant on voit le vaisseau qui passe à côté. De nouveau la Terre. Et la grande roue de la station orbitale sur sa gauche. Maintenant, on voit un avion supersonique. Et on est dans l'avion. Et il y a un stylo qui flotte. En apesanteur. Un stylo qui s'est échappé d'une main de l'unique passager qui est endormi devant un écran télé. Il y a une hôtesse qui apparaît, tout en blanc. Sur ses souliers, il y a écrit que c'est des chaussures adhésives. Elle, elle peut marcher malgré la pesanteur. Et elle va ramasser le stylo et le remettre dans la main de l'astronaute endormi. C'est le début du voyage. Nicolas Sada, on va peut-être résumer 2001, l'Odyssée de l'espace. En tout cas, je vais essayer. Alors voilà, après l'aube de l'humanité, où les singes ont découvert l'usage de l'outil après avoir touché un monolithe mystérieux et tout noir, on se retrouve donc en 2001, lorsque le même monolithe est découvert sur la Lune. Ce monolithe émet un signal que deux cosmonautes vont partir suivre jusqu'à Jupiter. Sur place, seul le docteur Bowman fera le voyage. Et une fois à Jupiter, il est aspiré dans une sorte de vortex au-delà de l'infini. Il traverse des paysages extraterrestres. Il parvient dans une chambre où il vieillit extrêmement rapidement. Sur le point de mourir, soudain il aperçoit le monolithe devant lui. En voulant le toucher, il renaît sous la forme d'un fœtus qui est renvoyé sur la Terre. Alors cette fameuse chambre, Nicolas Saada, Kubrick disait qu'il l'avait conçue comme si les entités, puisque c'est comme ça que Kubrick appelait les extraterrestres, comme si les entités avaient voulu organiser une chambre comme nous on organise un enclos pour les animaux dans les zoos. Donc c'est nous les animaux et la chambre c'est notre zoo. Vous êtes d'accord avec cette lecture ?
C'est une des lectures, l'idée qu'on soit des cobayes, qu'observent les entités extraterrestres. Mais moi j'ai essayé de chercher un peu ailleurs. Vous savez, à New York, il y a ce musée que j'adore, qui est le Metropolitan Museum.
Oui.
Et il y a un truc au Metropolitan qui date des années 40-50, c'est qu'ils ont reproduit à l'identique des salons du 17e, du 18e et du 19e siècle. Et quand j'ai vu pour la première fois ce salon du 18e siècle, le salon de Bordeaux, je crois, au Metropolitan Museum, je me suis dit, mais est-ce que tout jeune, Kubrick ne serait pas venu au Metropolitan regarder les tableaux et il serait tombé en émoi devant ce lieu en se disant « un jour, je le mettrai dans un film ». Je me suis souvent demandé si ce lieu qu'on voit à la fin de 2001, ce n'était pas le salon Bordeaux du Metropolitan Museum, revu et repensé et rêvé par Kubrick. En tout cas, oui, c'est vrai que c'est un environnement assez étrange pour observer un humain, parce qu'on ne peut pas dire qu'on évolue en se sentant tous au milieu d'un mobilier et d'un décor pareil.
Oui, c'est une version un peu approximative et à la fois idéalisée et approximative de l'architecture française. Ils ont quand même pris la France comme décor de mobilier.
Et puis ce qui est très beau, c'est cette présence du monolithe, parce que le monolithe, ça incarne quoi ? Ça incarne une forme parfaite, ça incarne... Alors pour certains, c'est la pierre philosophale, pour d'autres, c'est effectivement une créature... Alors, on n'a pas envie, en plus, de donner des explications à ce qu'on voit dans 2001. Et d'ailleurs, Kubrick lui-même ne voulait pas donner d'explication. Chacun a sa propre explication de 2001. Et il y a eu une suite tournée en quelques années plus tard, qui s'appelait 2010, où on voulait tout expliquer et c'était juste impossible, quoi. C'était...
Ah bon ? Mais qui l'avait tourné, cette suite ?
Peter Yams.
Quelle
Alors,
idée ?
Il faut le voir pour y croire, parce que c'est un film qui est ultra bavard. Et où tous les personnages ne cessent de dire, bah alors si on était à Clavius, parce qu'en fait ils voulaient qu'on soit là, donc maintenant il faut partir. Et on se rend compte que, évidemment, 2001 c'est un film qui exclut le discours, qui exclut la parole, parce que c'est au spectateur de construire lui-même son discours sur ce qu'il regarde. Et que tous les films de science-fiction depuis, pour moi, échouent parce qu'ils essaient d'expliquer ce qu'on regarde. Mais même Interstellar, qui est un film que j'aime beaucoup, il y a toujours un moment donné où un personnage vous explique qu'on est passé dans une dimension parallèle, qui est celle qu'on a vue au tout début, mais en fait, c'est pas la même. Et on n'a pas envie d'entendre quoi que ce soit. On n'a pas envie de nous expliquer ce qui nous fascine. Et c'est ça la force de Kubrick. D'ailleurs, c'est très étrange, parce que le film qui suit est très bavard, Orange Mécanique. Et moi, évidemment, je préfère 2001 Orange Mécanique.
Et avant, Folamour aussi était très bavard. Alors ce fœtus que les entités renvoient sur Terre, d'après vous, c'est un surhomme ? Ce qui me manque, c'est la suite. C'est qu'est-ce qui se passe quand ce fœtus grandit sur Terre ?
Non, ce fœtus, moi je pense que c'est nous tous. J'ai l'impression que ce que raconte Denisin, c'est qu'on est très dans une pensée asiatique, orientale, de la vie et des cycles qui perdurent. Parce que moi, à l'époque, quand je l'ai vu, à 12-13 ans, je l'avais interprété comme ça. Mais à chaque fois, on peut l'interpréter de manière différente. C'est un film qui est complètement ouvert à l'interprétation.
Dans le dossier de presse du film qu'ils ont conçu au moment de la ressortie du film en 70 mm, quand il y a eu la grande projection à Cannes, il y a cette phrase étrange où ils disent que derrière chaque humain, il y a 300 ombres, 300 fantômes. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre et je ne sais pas s'il est exponentiel, mais c'est une piste à creuser en tout cas.
C'est vrai que le film a une dimension anxiogène, métaphysique. Moi, j'aime bien cette idée des ombres. Et puis ce lieu même, ce lieu de toute la deuxième partie dans ce vaisseau spatial qui est désert, on pense aussi à la tradition gothique, des maisons abandonnées, des maisons désertes. Effectivement, là, tout est high-tech, mais on est quand même dans un lieu clos, dans un lieu vide, dans un lieu anxiogène. Il y a peut-être des fantômes, d'ailleurs.
Ça, c'est le son du film au début. Vous êtes dans le noir. J'ai toujours pensé que chez n'importe quel autre metteur en scène, mettre cette musique en ouverture, c'est quand même d'une ambition démesurée. Et il fallait quand même qu'il soit assez sûr de son coup et des images qui suivent pour mettre ça en ouverture, vous ne trouvez pas ?
Ah ben, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que c'était ce qu'on appelle dans le jargon des cinéastes américains de l'époque, une temp music. Alors, c'est toujours le jargon des cinéastes d'aujourd'hui. C'était une musique qui avait posé Kubrick sur son montage. Et au départ, c'est un autre compositeur qui devait faire la musique du film, qui s'appelle Alex North. Mm-hmm. Et Alex North s'est contenté de suivre avec des variations tout ce que Kubrick avait posé. Et donc, le jour de la première du film à Londres, Alex North, avec qui Kubrick avait travaillé sur Spartacus, il va à la projection, il se rend compte qu'en fait, il n'y avait pas une minute, une seconde de sa musique dans le mixage final, que en fait, Kubrick avait conservé toutes les musiques qu'il avait posées sur son premier montage, que la musique d'Alex North, en fait, ne convenait pas du tout. Il a eu raison, hein.
Ah là là, oui.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est non seulement c'est l'idée des deux Strauss, c'est-à-dire Richard Strauss qu'on vient d'entendre, c'est quelque chose d'écrasant, de définitif. Et les valses de Strauss, c'est totalement l'inverse. Mais ce qui est très beau dans l'idée des valses de Strauss sur les images de l'espace, c'est que ça crée une espèce de connivence. C'est comme si on voyait une publicité pour des voyages spatiaux. C'est-à-dire que tout ce qu'on regarde sur le rythme de Strauss nous paraît à la fois proche et lointain, c'est-à-dire qu'on se dit en regardant les images, oui, bah, ça devait être comme ça, un voyage spatial. On n'a pas du tout. Kubrick ne cherche pas un effet de sidération, justement. Il essaie de chercher une connivence entre le spectateur et cet univers complètement nouveau pour lui.
On est d'accord qu'on est plus du côté de Solaris que de Star Wars avec 2001.
Alors, on est du côté d'un film où c'est la sensation pure qui joue sur le spectateur. Mais moi, ce qui m'étonne toujours quand je vois ce film, c'est que je me dis, voilà. On est en 2021, donc le film a 53 ans. Mmh. Et en 68, pour tes calculs, Michel, si on remonte 53 ans plus tôt, on est en 1915.
Oui.
C'est-à-dire qu'on est au début du cinéma avec les films de Pink Floyd, les films de Soyab. Donc on voit le saut de langage qui s'est passé en 53 ans quand on confond par exemple un film de Lee Soyab et 2001. Mais on se dit que depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, le bond est moins grand.
Ah, c'est clair.
C'est-à-dire qu'on est arrivé avec ce film et quelques autres à un plafond dans la créativité, la recherche, la liberté, l'absence de personnage central, le jeu sur le son. On parlait de la guerre des étoiles, ces respirations des astronautes sous leur casque dans 2001. Ben, en gros, la respiration saccadée de Darth Vader dans Star Wars, elle vient de ce film.
Bien
elle
sûr.
Vient de 2001. Et Star Wars, c'est 9 ans après 2001. Mais 2001 pose tout du point de vue des effets spéciaux. Pour moi, ça reste aujourd'hui le plus beau film. Il n'y a pas de plus beaux effets spéciaux que ceux de 2001. Il y a des images de 2001 qui les revoient Et à chaque fois, je me dis, mais comment ils ont fait? Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à... Moi, j'adore les effets spéciaux, c'est quelque chose qui me passionne. Je suis toujours abonné à un magazine qui s'appelle Cinefex, qui vous explique dans tous les détails comment les effets spéciaux de tel ou tel film sont fabriqués. Aujourd'hui, on est quand même à l'ère du numérique, du digital, mais rien n'égale les effets spéciaux de 2001. Pourquoi? D'abord, c'est les maquettes, donc elles sont construites,
ouais.
Et du coup, elles sont éclairées. Donc, il y a quelque chose de tangible dans l'image quand on la regarde, quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire que ces objets qui bougent sous nos yeux, ils sont construits, ils sont éclairés, ils sont pas en 3D, ils sont pas produits par un ordinateur, justement. Ils sont fabriqués dans un espace qui est un espace concret. Et puis surtout, le film, classiquement, a posé les bases de tout ce qu'on voit aujourd'hui en science-fiction. Ad Astra, Seul sur Mars, Mission to Mars, First Man, tous ces films ont une dette envers 2001.
Voilà. Alors, l'obsession de Kubrick à l'époque, c'était de ne surtout jamais avoir l'air cheap.
Là, on est dans une super production. Tout est extrêmement travaillé, extrêmement cher. Je veux dire, il y a 106 personnes qui travaillent pendant un an et demi sur la préparation des effets spéciaux. C'est pas juste l'hubris de Kubrick. C'est aussi le désir d'être en phase avec ce qui est en train de se faire. C'est vrai qu'il faut peut-être rappeler, en 1961, Kennedy fait un discours annonçant pour la fin des années 60 le fait qu'il voulait que non seulement un homme aille sur la Lune, mais qu'il en revienne sauf. Ce qui est intéressant de la part d'un président, je trouve, s'intéresser à ses astronautes. Mais ce qui est passionnant pour un Kubrickien, c'est de se dire que c'est devenu un défi personnel pour Kubrick. C'est qu'il voulait absolument finir son film avant que l'homme mette sur le pied sur la Lune. Donc il a mis toute la puissance de la NASA, tout ce qu'elle a bien voulu lui donner, de l'argent de la Warner pour effectivement aller dans ce sens-là.
Ça, c'était Carole Desbarras sur France Culture. Comment vous expliquez que la NASA se soit prêtée au jeu? Ils auraient pu dire, écoutez, vous êtes gentils, on a autre chose à faire. Nous, on essaie d'envoyer des hommes sur la Lune, on a autre chose à faire que du cinéma. Ça vous étonne pas?
Moi, ça m'étonne pas parce que quand on lit les entretiens, le fameux entretien de Kubrick avec, pour le journal Playboy en 68, on voit à quel point il est instruit et cultivé et incroyable sur cette question de la conquête spatiale. C'est-à-dire qu'il cite des grands professeurs, des grands chercheurs. Donc je pense que quand il contacte la NASA, c'est pas qu'il a fait, comme on dit en anglais, ses devoirs, son homework, c'est qu'il est tellement passionné par la question, il est tellement au courant de tout ce qui se passe, il a tellement lu sur le sujet, qu'il a dû les convaincre par sa seule intelligence. C'est ce que j'imagine. Je pense qu'il a une capacité de persuasion publique qui est liée à son extrême humour, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup d'humour dans les moulins, il y en a énormément.
Absolument.
Et son intelligence. Et je pense qu'il a une capacité de séduction qui est telle qu'il a effectivement dû convaincre les gens dont il avait besoin pour faire ce film. Et puis, il ne faut pas oublier que Douglas Trumbull, moi que j'ai eu la chance de rencontrer deux fois dans deux circonstances très différentes, Douglas Trumbull qui est le maître d'armes de ce film, qui a ensuite assez rencontré le troisième type, qui a inventé dans les années 80 un procédé de projection révolutionnaire qui s'appelait le Shoscan, qui n'a jamais été en fait exploité. Douglas Trumbull, à l'époque, faisait des petits films pour la NASA. Et donc, Kubrick, il dit, il a 20 ans, 22 ans, Trumbull. Il dit, je vous recrute pour le film. Et donc, il fait de ce film, c'est Pierre Chevalier qui m'a dit ça, tout sujet à son danger, mais aussi tout sujet à son avantage. Donc, le sujet du film, c'est quand même aussi la science. Donc, le film devient aussi un vaste laboratoire. On tente des choses totalement inédites du point de vue des effets spéciaux, du travail sur la lumière, de la construction des décors. Donc effectivement, je pense que cet aspect d'un film dont on parlait tout à l'heure, de recherche, a dû peut-être aussi séduire les gens de la NASA.
Alors, dans 2001, comme dans d'autres films de Kubrick, mais vraiment clairement dans 2001, il y a une obsession du rond, du cercle et de l'œil.
Alors, ce qui est intéressant, c'est l'œil. C'est que l'œil occupe... Kubrick est un cinéaste du regard. Dans tous ses films, l'œil occupe une place déterminante. On se souvient dans Shining, de Danny, de ses visions. On se souvient d'Alex dans Orange Mécanique aux yeux écarquillés. On se souvient des visions même de Bill dans Eyes Wide Shut, qui voit sa femme lui être infidèle. Donc, l'œil, le regard, c'est quelque chose d'important pour Kubrick parce que c'est la prédation. C'est le moyen de métaboliser aussi la violence. Et Hal, précisément, c'est un œil malveillant, vision, mais un œil panoptique. Et en cela, il fait écho à, par exemple, l'Overlook dans Shining.
Oui, bien sûr.
Une entité panoptique.
L'hôtel.
Omnisciente, l'hôtel de Shining. Et ce qui est très intéressant, c'est que, avec cet ordinateur, on a une nouvelle figure qui apparaît dans le cinéma de science-fiction, puisque c'est presque un film, le premier film post-humaniste, finalement, 2001. Puisqu'on a ce questionnement qui est typique de ces films-là qui vont venir après, que ce soit Blade Runner, plus récemment la Ex Machina, même dans Wall-E.
L'ordinateur central d'Alien, Mother, c'est la mère ou la sœur de Hal.
Exactement.
C'est exactement la même.
D'ailleurs, Hal devait s'appeler à l'origine Athéna. Il était question de l'appeler Socrate ou Athéna. Et donc, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que ici, c'est humain trop humain, comme dirait Nietzsche. C'est-à-dire que l'ordinateur excède l'humanité des passagers.
L'ordinateur excède l'humanité des passagers. Nicolas Sarda, vous êtes d'accord avec cette obsession de l'œil et du rond?
Ah, et c'est vrai que ce qui m'a frappé en voyant le film, c'est à quel point le cercle revient tout le temps dans les compositions, mais aussi dans le choix des décors, pour que les personnages soient pris dans des cercles, soit marchent carrément en défiant la pesanteur avec des chaussures adhérentes et sont des cercles dans l'écran. Enfin, c'est vrai que l'épisode de ce qui est très importante, mais par rapport à l'ordinateur, Kubrick raconte dans un entretien que il y a une anecdote que se racontent les scientifiques et qui est leur plus grande crainte, en fait, c'est qu'un jour on réussisse à poser une question à un ordinateur très intelligent et en lui posant la question ultime, et la question serait est-ce que Dieu existe? Et l'ordinateur prend un petit moment, il dit oui, Dieu existe, d'ailleurs c'est moi. Et de là, c'est un peu
quel cauchemar, oui, absolument.
Quel cauchemar, ouais, ouais. C'est ce cauchemar. Mais ce qui est très étrange aussi, et ce qui est magnifique dans 2001, c'est que justement, on parle d'œil, on parle de vision, on parle aussi de regard, mais aussi on peut parler aussi de la façon dont Kubrick voit juste aussi sur le futur. C'est-à-dire qu'il y a des tablettes, les personnes ont des tablettes, comme celles qu'on a, vous et moi, aujourd'hui, dans notre quotidien. Quand même, Hal, quand on le regarde, il ressemble curieusement à un smartphone.
Mais le monolithe ressemble à un smartphone.
Donc tout ce qu'on voit dans 2001, alors on ne sait plus si c'est 2001 qui a influencé ce qui a suivi, ou si finalement 2001 a vu juste, à savoir qu'on regarderait les choses de façon plutôt verticale qu'horizontale. Parce que c'est très étonnant quand les deux versions de monde, je regarde BBC 12 sur leur tablette, ils regardent une image qui est verticale, et c'est des images qu'on a aujourd'hui sur nos smartphones, sur nos tablettes. La plupart du temps, on les regarde de façon verticale. Donc il y a une préscience de ce que sera le design industriel, le design des objets et des gadgets qui nous entourent, qui est quand même assez vertigineux en 68. Que puisse imaginer tout ça avec autant de précision.
Alors, ce qui me fascine moi aussi dans l'aventure 2001, c'est que ce monolithe a tellement marqué les esprits que pendant le confinement, en octobre 2020, le deuxième confinement, il y a eu un monolithe qui est apparu dans le désert de Red Rock dans le Utah. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire.
Une sorte de dingue. C'est dingue, complètement dingue.
Donc il y a ces monolithes. En fait, il y a des drones qui surveillent le désert de l'Utah parce qu'il y a des animaux qui habitent là-dedans. Donc ils veulent vérifier que les animaux sont en bonne santé. Ils ont vu comme ça qu'il y avait ce monolithe. Ils n'ont jamais voulu révéler l'endroit. Mais les gens malins avec Google Earth ont réussi à trouver l'endroit. Donc d'un seul coup, il y a eu des touristes, des saletés amenées sur le site. Enfin, c'était une horreur. Et puis du jour au lendemain, 3 semaines plus tard, le monolithe a disparu comme il était arrivé. Et puis un mois plus tard, on a retrouvé un monolithe, pas exactement le même, mais du même style en Roumanie. Celui-là aussi a disparu. Après, on a su que le premier monolithe de l'Utah avait été enlevé par un funambule qu'il avait brisé en plusieurs morceaux et était reparti avec les morceaux. Depuis, plus de nouvelles. Mais je trouvais quand même magnifique d'utiliser la période du confinement pour aller nous mettre un monolithe quelque part. Je ne sais pas qui l'a fait, mais c'est quand même un humour et... Enfin voilà, il y a un humour ou une nostalgie ou une vista de l'avenir, je ne sais pas, ou si c'était un message que nous on envoyait au reste du monde, mais j'ai trouvé ça magnifique.
Mais souvenez-vous, Michel, il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup troublé en revoyant 2001, c'est que parmi les premières phrases de dialogue, il y a le docteur Freud rencontre des scientifiques russes, et Freud va se rendre sur Clavius, et les scientifiques disent il paraît qu'il y a une épidémie sur Clavius.
Absolument. C'est terrible.
Ça m'a complètement J'avais complètement oublié ce détail. Effectivement, on protège les recherches américaines sur Clavius parce qu'effectivement, il faut les protéger. Et du coup, on fait croire et on fait penser au grand ennemi soviétique qu'il y a une épidémie. Et on ne sait même pas quelle est cette épidémie, quelle est sa nature. Mais c'est très troublant, encore une fois, d'entendre dans les premiers dialogues de 2001 cette référence à une épidémie.
Incroyable. C'est incroyable. Alors, les passagers sont donc deux astronautes, Gary Lockwood et David Bowman. Les acteurs sont Frank Poole et Kier Dulea. Alors, on a beaucoup dit qu'ils étaient déshumanisés, qu'ils étaient beaucoup trop froids, qu'ils étaient antipathiques. En fait, quand on y réfléchit, c'est normal. Ils vivent ensemble depuis des mois et des mois. Ils font la même routine tous les jours. Donc, ils n'ont pas 40 000 choses à se raconter. Et je crois que, en fait, c'était une volonté de Kubrick de rendre l'ordinateur merveilleusement humain. Alors, moi, j'ai eu la chance d'interviewer Kubrick en 87, au moment de la sortie de Full Metal Jacket. Et on a parlé de l'accueil de 2001. Et de la manière dont la presse avait réagi. Dès la sortie de 2001, j'ai remarqué, il y a un journaliste qui a dit « Oh, c'est un film froid. Je suis plus ému par l'œil de Hal que par le cosmonaute. » Et ça, les gens qui écrivent ça n'ont rien compris. C'était le but. Mais à partir de là, les critiques cherchaient un angle pour écrire sur le film, qu'ils aiment ou pas le film d'ailleurs. Ils ont tous dit que c'était un film froid, détaché. Mais ils disaient ça aussi sur vos autres films. Mais à partir de là, ils l'ont dit sur tous mes films. Ils ont trouvé un angle. Et si vous êtes un critique depuis longtemps, bah vous le gardez l'angle. Heureusement, c'était une minorité qui a écrit ça. C'était pas les plus importants non plus. Mais quand un critique écrit longtemps, il faut qu'il soit consistant avec ce qu'il a écrit avant. Et si vous devenez un metteur en scène important, eux, il faut qu'ils restent consistants face à vous, sinon ils perdent leur pouvoir. Alors, Nicolas Saada, faut quand même rappeler que au moment de la sortie, ça a été vraiment une horreur de la part de la critique. Pauline Kael, la grande prêtresse du New Yorker, avait écrit que c'était une monumentale absence d'imagination. Et à l'avant-première à New York, il y a 240 personnes qui ont quitté la salle au milieu. Et Rock Hudson a répondu à quelqu'un qui l'interviewait « Qu'est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que ce film raconte ?» Et ce qu'il y a de fou, on est en 68, c'est que c'est la contre-culture hippie qui a sauvé le film. C'est-à-dire que les jeunes s'en sont emparés, ils sont allés, ils sont retournés. John Lennon a dit qu'il y allait une fois par semaine. Et un mois après la sortie, la Warner a changé la campagne de pub et l'accroche sur le film, c'est devenu « The Ultimate Trip ». Le voyage ultime. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, Nicolas ? C'est quand même fou, non ?
D'abord, en écoutant votre interview avec Kubrick, première conclusion, c'est pas rester critique trop longtemps. Ça, je suis d'accord avec vous.
C'est pas un métier critique.
ça vous prive quand même d'un rapport, je dirais, concret, physique, sensuel aux choses. Et quand on fait des films, c'est ça qui est magnifique. Mais plus sérieusement, non, là, vraiment, c'est la limite, je crois, de ce qu'on peut écrire sur le cinéma. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas écrire sur le cinéma. C'est très difficile de produire des idées sur les films. Moi, j'ai lu là récemment un livre sur la peinture flamande de Todorov, qui s'appelle L'éloge de l'individu, et j'étais absolument sidéré par la qualité de ce qu'écrit Todorov sur la peinture. Et c'est très compliqué de dire des choses, je dirais, sensées, intelligibles sur le cinéma. Parce que le cinéma conjugue tellement d'art à la fois. Il y a la dramaturgie, il y a la musique, il y a le son, il y a l'image. C'est très compliqué de réduire à quelques mots un film comme 2001, par exemple. 2001, justement, il en parlait beaucoup, Kubrick, de ça. 2001 est assimilable aussi à la musique. C'est-à-dire que pour lui, c'est un film très mélodique, très musical, pas simplement à cause de l'utilisation de la musique, mais simplement parce que sa construction même est très musicale. C'est un film qui ressemble plus au Sacre du Printemps qu'à la Guerre des Étoiles.
Absolument.
Il y a une ouverture, on est dans le noir total avec les bruits, les sons de l'IGP, puis on rentre avec cette espèce de deuxième ouverture dans l'aube de l'humanité. Et il y a trois tableaux, c'est comme s'il y avait presque trois scènes en fait. Il n'y a pas vraiment de scénario, mais est-ce qu'on en a besoin finalement de ça? Est-ce que c'est pas non plus aussi ça le cinéma? Est-ce que c'est pas une expérience totale? Moi, je vais pas au cinéma pour m'évader, au cinéma pour m'échapper. C'est pas du tout la même chose. Donc on s'échappe avec ce film, on s'échappe, on va ailleurs. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et le cinéma, pour moi, c'est d'abord une expérience. Je rentre dans une salle pour éprouver quelque chose, pour rencontrer quelque chose. Alors ça peut être le film de Carax, Annette, c'est le film de Kubrick. Voilà, c'est ça que j'ai besoin de vivre dans une salle de cinéma, parce que la vie est courte. Et donc le cinéma, pour moi, doit participer de quelque chose qui me fait échapper à la vie.
Vous avez raison.
C'est un reflet de la vie. Le cinéma, moi, je ne vais pas au cinéma comme je lirais un journal. Je n'attends pas du cinéma qui soit un reflet de la vie. La vie est suffisamment compliquée comme ça.
Alors, vous aimez que le cinéma vous emporte ailleurs. Ça peut changer une vie. Gaspard Noé nous raconte comment il a vécu 2001 dans sa vie.
La première fois que j'ai vu le film, c'est mon père et ma mère qui m'y avaient emmené. Je devais avoir 6 ans. Ouf. C'était à Buenos Aires. Et c'était, je me souviens très bien, la grande salle où on avait vu le film. On était allé à l'étage au-dessus, on était au premier rang. Et c'est peut-être le premier vrai souvenir d'être dans une salle de cinéma qui me reste de ma vie. Et c'est aussi le premier grand choc que j'ai eu avec le langage cinématographique. Et en plus, découvrir ce que c'est que le cosmos, ce que c'est que le futur, de découvrir ce que c'est que le cinéma, de découvrir aussi ce que c'est peut-être des expériences psychédéliques, parce que la fin du film, elle est totalement psychédélique. Mmh. Et aussi, je sais qu'à la fin de cette projection, j'avais vraiment pas compris qu'est-ce que c'était que cet enfant avec une tête géante à la fin du film. Et il y a eu une discussion en revenant de la salle de cinéma où ma mère et mon père m'ont expliqué ce que c'était qu'un fœtus, ce que c'était que cette graine qu'un homme mettait dans le ventre de la femme et qui après devenait un enfant, etc. Et du coup, je même, suite à cette projection, qui m'a marqué plus que n'importe quelle autre projection de ma vie, j'ai compris ce que c'était que la raison pour laquelle j'étais venu sur cette planète. Et le truc qui était impressionnant avec ce film, c'est que, comme tous les grands événements dans une vie, il a dû me déclencher beaucoup d'adrénaline, parce que l'adrénaline, elle fixe les souvenirs. Et à peine le film fini, je voulais recommencer l'expérience, comme quelqu'un qui était addict à une nouvelle drogue. Et cette nouvelle drogue, c'était le cinéma. Et voilà, toute ma vie, j'ai rêvé de faire un film un jour de ce type-là, de devenir le magicien d'Oz à la place du magicien d'Oz. Et Enter the Void est clairement inspiré par ce film, qui n'arrive pas à la cheville de ce film, qui pour moi la plus grande œuvre ou la plus magistrale que le cinéma ait produit en 100 ans. Voilà. Et après, comme beaucoup de gens qui ont ce syndrome qu'on appelle maniaco-obsessionnel, je collectionne tout ce qu'il y a autour de 2001, l'Odyssée de l'espace, comme pour pouvoir posséder ce monolithe géant qu'est le film. Depuis cette époque-là, j'ai dû le voir 60 fois, voire une ou deux fois par an, sans problème, même des fois pour bien commencer l'année, au passage du nouvel an, je vais dans une fête, après je rentre, je me mets le Blu-ray pour me recentrer un peu pour l'année à venir. Et dernièrement, j'ai vu la copie 70 mm, et très peu de temps après, j'ai revu la copie numérique qui avait été faite donc en 4K. Et il y a des avantages à voir la copie 70 mm qui vient de la stroboscopie d'une pellicule 35 mm ou 70 mm et le système de projection avec une griffe, contre-griffe, l'image est plus stroboscopique, donc un peu plus hypnotique. Mais les couleurs étaient beaucoup plus belles sur la copie 4K. Et j'ai même assisté à une projection qui était vraiment impressionnante. C'était au Grand Rex, avec tout un orchestre qui joue en direct.
Ah oui.
C'est vrai que la musique diffusée par des haut-parleurs, aussi bien mixée soit-elle, reste une musique qui paraît moins naturelle qu'une musique jouée sous vos propres yeux. Mais il paraît qu'il n'y a pas si longtemps, on a retrouvé les bobines des séquences coupées sans le son. Et que j'étais enterré quelque part dans un désert, je ne sais pas, dans une cave ou quelque part. Et je rêve de voir ces séquences coupées. Mais parce que sa famille gère très bien ses affaires, mm-hmm. et que peut-être ils ont décidé que Kubrick ne voulait plus qu'on voit ces séquences-là, il y a eu un veto et ces séquences coupées n'ont jamais été montrées au grand public. Mais
vous ne désespérez pas.
Si je suis obsédé par le film, je rêverais de voir ces fameuses séquences coupées. 2001, pour moi, était l'année du futur Et quand il y a eu le passage de l'année 2000 à l'année 2001, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut rentrer dans le futur? Est-ce que le futur peut devenir le présent? Et ça me veut beaucoup troubler.
Est-ce que l'avenir vous fait peur ou est-ce que de voir le film vous rassure?
Le film, c'est pas qu'on me rassure, mais ça me surexcite par rapport à ce qu'on peut faire de son vivant dans la vie. Que quelqu'un ait réussi à faire une œuvre de cette ampleur-là, ça me paraît une œuvre titanesque. On ne sait toujours pas comment les Égyptiens ils ont fait les pyramides, mais comment Kubrick a réussi à faire une œuvre aussi imposante et à tout point de vue, et aussi mature. Je dis voilà, ça donne envie de croire à la fois dans l'essence de la vie et dans le langage cinématographique.
Nicolas, est-ce que pour vous aussi, c'est quelque chose de super excitant, l'avenir?
Oh, l'avenir est à la fois inquiétant et super excitant, mais pour rebondir sur ce que dit Gaspard, je crois qu'on a tous son 2001, quoi. C'est-à-dire que quand on tombe amoureux de ce film, chacun construit sa relation avec ce qu'il propose, ce qu'il offre. Et en plus de ça, moi, je crois que 2001, effectivement, on l'aime parce que c'est un film qui reste totalement énigmatique. Moi, j'ai beau lire toute la littérature possible sur comment les effets spéciaux ont été tournés, quelle machine il a utilisé, quelle caméra il a employé pour telle ou telle séquence. J'ai toujours l'impression de voir un film qui a été tourné dans l'espace. Je n'arrive pas à me dire que ce film a été fabriqué. J'ai l'impression que le chemin entre ce qu'il y a dans la tête de Kubrick et ce qu'il y a sur l'écran est immédiat. Il s'est contenté d'enregistrer ce qu'il avait en tête. Donc c'est pour ça que c'est un film qui nous séduit, qui nous passionne et qui nous stimule à ce point-là. Et moi, pendant très longtemps, c'était une espèce de film culte, une espèce de... Le film lui-même était cette pierre philosophale. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'est un film qui m'intimidait beaucoup. Et puis, par le hasard de la vie, il se trouve que le père de ma compagne, Pierre Boula, c'est un immense photographe qui travaille pour Life Magazine. Là, j'ai appris qu'il avait fait, en fait, toutes les photos utilisées au début du film pour L'Aube de l'Humanité. Huh. En fait, il est parti en Afrique du Sud avec Andrew Berkeley,
ouais,
à la demande de Kubrick, faire des photos à la chambre de paysages africains, de montagnes, de plaines, de déserts. Et ensuite, ces paysages ont été projetés avec un système de rétroprojection à miroir sur le plateau à Londres, avec les mimes comme ça qui jouaient les singes. Et donc, moi, après, quand j'ai un peu connu Pierre, j'ai commencé un peu à voir son travail, et surtout son travail sur tout ce qui était... la nature, les montagnes, les paysages. Et maintenant, je reconnais les photos de Pierre. Donc, quand le film commence, il y a
vous êtes en famille.
De Kubrick, mais en plus, il y a cette espèce de connivence très étrange avec le film par ce travail photographique de Pierre Boula que je reconnais dans les premières images. Donc, c'est ce que raconte Gaspard, finalement. C'est ça qui est beau avec les films qu'on aime et qu'on chérit, c'est qu'on trouve toujours une nouvelle connexion avec le film.
C'est vrai.
Et que moi, je suis hyper connectée à 2001. Voilà, c'est ça. C'est un film connecté aussi à sa manière, mais c'est vrai que c'est un film qui me conforte dans l'idée que le cinéma a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à nous donner. D'ailleurs, votre fiction, Michel Etapé, des films qui ont changé notre regard.
Oui, lui, c'est le cas.
J'ai pas l'impression que 2001 ait changé à ce point notre regard. Parce que si 2001 avait changé à ce point notre regard, en tout cas le regard de ceux qui décident de l'avenir du cinéma, de l'avenir des films, de leur faisabilité, ça se saurait. Je ne pense pas que le scénario de Kubrick passe l'avance sur recette ou toute autre condition de ce type-là. Je ne suis pas sûr qu'il ait une chaîne.
C'est un film. Il aurait zéro chaîne, oui.
Voilà, je ne pense pas qu'on envoie le scénario de 2001. Il vaut mieux aller le pitcher. Je pense que Kubrick a dû très bien le pitcher aux gens de la MGM. Je doute qu'ils aient eu une idée du film en lisant le scénario.
Mais Kubrick dit toujours...
40 pages.
Kubrick dit toujours qu'il n'aurait jamais réussi à financer ce film s'il n'était pas sorti de Fol Amour. C'était vraiment le moment pour le faire, le film. Mais moi, je l'ai choisi, je vais vous dire pourquoi je l'ai choisi dans les films qui changent nos regards. Parce qu'après tout, c'est de mon regard qu'il s'agit. Et moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais, jamais, jamais été intéressé par la science-fiction et par le futur. Ça m'a plutôt terrorisé toujours. Et le seul film qui m'intéresse et m'apaise en ce qui concerne la science-fiction, c'est le film de Kubrick. Voilà. Je me dis toujours, si c'est ça le futur, alors je peux vivre avec. Alors, on va écouter un autre extrait du film. Évidemment, Hal qui est entre guillemets le méchant du film, c'est l'ordinateur. La voix de Hal, c'est la voix de Claude Rains, qui est un acteur qui avait fait la voix d'un court-métrage documentaire d'animation qui a gagné un prix à Cannes en 60, qui s'appelait Notre Univers. C'était un Canadien. Kubrick adorait ce documentaire. Il a donc engagé cet homme, Claude Rains, dont c'est devenu le rôle de la vie. Claude Rains joue Hal, l'ordinateur. L'ordinateur qui sait que les deux astronautes complotent contre lui et donc soudain décide de se venger.
Open the pod bay doors, Hal.
Ouvre les portes, Hal.
I'm sorry, Dave.
Pardon, Dave.
I'm afraid.
Désolé.
I can't do that.
Je ne peux pas te laisser rentrer.
What's the problem?
C'est quoi le problème?
I think you know what the problem is.
Tu sais très bien. Tu sais autant que moi. Qu'est-ce que tu racontes?
This mission is too important for me to allow you.
Cette mission est bien trop importante pour que tu la mettes en danger.
I don't know what you're talking about.
Je ne sais pas de quoi tu parles.
I know that you and Frank were planning to disconnect me.
Frank et toi vouliez me déconnecter.
And I'm afraid that's something I cannot allow.
Je ne peux pas vous laisser faire ça.
Where the hell did you get that idea?
Enfin, d'où ça vient cette idée?
Although you took very thorough precautions,
Dave, même si tu as pris beaucoup de précautions
against my hearing you,
pour que je ne vous entende pas,
I could see your lips.
J'ai lu sur vos lèvres. Bon, d'accord.
I'll go in through the emergency airlock.
Je vais entrer par l'issue de secours.
Without your space helmet, Dave,
sans ton casque, ça me paraît impossible.
You're going to find that rather difficult.
Hal, I won't argue with you anymore.
Hal, je refuse de discuter avec toi. Ouvre les portes.
Dave.
Dave.
This conversation,
cette conversation est inutile.
Goodbye.
Au revoir.
Hal. Hal. Hal.
Il a fini par rentrer.
Just what do you think you're doing, Dave?
Et Hal sent qu'il va y avoir un problème.
Dave,
qu'est-ce que tu fais, Dave?
I really think I'm entitled to an answer to
Dave,
that question.
Je mérite une réponse. Dave est en train d'ouvrir le panneau qui donne accès
I know
au circuit.
Everything hasn't been quite right with me.
Je sais que je n'ai pas été irréprochable.
But I can assure you now,
mais je te promets,
very confidently,
entre nous,
that it's going to be all right.
Tout va très
again.
Bien se passer maintenant. Pendant ce temps-là, l'astronaute,
I feel much better now.
Je me sens bien mieux. L'astronaute a pris un tournevis.
I really do.
Il est en train d'ouvrir le panneau qui protège l'accès au circuit. Il entre dans le circuit, tout est rouge.
I can see you're really upset about
Dave,
this.
Je vois que tu es très énervé.
I honestly think you ought to sit down calmly.
Tu devrais prendre un calmant et réfléchir.
Take a stress pill and think things over.
En apesanteur, il approche du panneau qui contrôle les circuits de Hal.
I know I've made some very poor decisions recently.
Oui, j'ai pris de mauvaises décisions. Petit à petit, il est en train de...
But I can give you my complete assurance.
Je te promets, ça n'arrivera plus.
My work will be back.
Il est en train de déconnecter Hal. C'est comme des cartouches qui fait sortir de leur poche.
Greatest enthusiasm and confidence in the mission.
J'ai toujours de l'enthousiasme pour notre mission,
and
Dave.
I want to help you.
J'aimerais t'aider. Petit à petit, méthodiquement, il débranche.
Dave.
Dave.
Stop.
Arrête. Dave.
Stop. Will you?
Dave continue à débrancher. Il respire calmement. On voit son visage.
I'm afraid.
J'ai peur, Dave.
I'm afraid, Dave.
Et on sent que Dave ira jusqu'au bout. Il est déterminé.
Dave.
De temps en temps, Dave regarde vers l'ordinateur. Dave, mon esprit m'abandonne. Et les cartouches sortent l'une après l'autre. Je le sens, mon esprit s'en va.
My mind is going.
Encore toute une rangée de cartouches à déconnecter.
There is no question about it.
Ça ne fait aucun doute.
I'm afraid.
Et là, la voix de Hal commence à perdre de sa vigueur. J'ai peur, Dave.
Good afternoon, gentlemen.
Bonjour, messieurs.
I am a HAL 9000K.
computer. Je suis un ordinateur HAL 9000. I became operational. Je suis devenu opérationnel à l'usine HAL à Urbana, Illinois, le 12 janvier 92. J'aurais jamais cru, Nicolas Saada, que la mort d'un ordinateur me ferait pleurer.
Ah oui, c'est très, très émouvant, très curieusement. Alors, juste avant, il y a cet échange entre Dave et l'ordinateur, et Al lui dit avec un aplomb incroyable: Dave, je pense que ce serait bien que tu prennes une pilule en stress et tu discutes de tout ça. Il vient quand même de tuer 4 personnes. Ça, c'est l'humour quand même, assez pernicieux de Kubrick, qui m'enchante. Mais c'est vrai qu'une fois que l'ordinateur commence à se dérégler, on a vraiment un sentiment de tristesse, de malaise. Je partage à mon avis Dave. Je pense que Dave, au moment où il est en train de débrancher, Al regrette de le faire. Et il y a quelque chose aussi qui est curieux, que j'ai remarqué là tout récemment. Les cartouches que vous utilisez, quand les cartouches transparentes comme ça apparaissent les unes après les autres, il y a rien qui vous a frappé dans ces cartouches, Michel?
Bah, ça m'a rappelé les cartouches du son des années, des années 80.
Les cartouches transparentes qui sortent les unes après les autres des branches HAL, elles ressemblent, très curieusement, elles ressemblent au monolithe.
Oui, c'est vrai.
La même forme.
C'est vrai.
C'est transparent, certes. Et je pense que cette trille visuelle, elle est absolument voulue par Kubrick. Mais 2001, c'est aussi pour moi un enseignement absolu, c'est que le cinéma ne suffit pas. Parce que pour moi, être cinéphile, c'est pas une qualité. Que, voilà, quand on est avocat, connaître le droit n'est pas une qualité. Ça fait partie du boulot. Donc, c'est pas un film de cinéphile, c'est un film de quelqu'un qui s'intéresse à tout. À l'image, à la technologie, à la technique, aux effets spéciaux, à la peinture, au son, à la musique. Et pour que le cinéma devienne grand, il faut laisser quand même beaucoup de choses entrer dans le cinéma. Enfin, le cinéma ne suffit pas. Le cinéma, peut pas vivre en circuit fermé. Et c'est ce que raconte aussi un peu 2001.
C'est vrai.
Si ce film existe, c'est parce qu'il est fait par un homme qui est ce que les Américains appellent un Renaissance Man. Quelqu'un qui a une connaissance, une curiosité pour tout. Et ça se voit dans tous les films de Kubrick.
Bien sûr, parce qu'il a touché à tous les genres de cinéma. Ça prouve bien que tout l'intéressait.
Alors, il y a Lalo Schifrin, qui est le compositeur de Dirty Harry, de Mission Impossible. Il y a quelques années, j'avais rencontré. Et on parlait de d'Eyes Wide Shut. Vous parliez tout à l'heure de l'accueil critique de Kubrick.
Oui.
Et Eyes Wide Shut est sorti, j'ai envie de dire, de bon vivant. C'est du chien. Et je m'attendais pas à se voir répéter les mêmes errements critiques.
Terrible.
C'est-à-dire que je me suis dit, bon, maintenant c'est réglé, Kubrick. On va quand même, après sa mort, lui faire, après la mort de Kubrick, toute la critique est tombée sur Eyes Wide Shut. Moi, je suis à l'époque, c'était mon dernier papier pour le cahier du cinéma, donc on s'en est encore mieux. J'étais un des rares à défendre le film. Tout le monde trouvait le film. Alors, ce qui revenait surtout, c'était pas réaliste, pas crédible. J'adore ces arguments. Comme si le cinéma était crédible. Comme si faire un champ contre champ en disant à l'acteur, bon, on va le refaire, c'était propre à la réalité.
Et oui.
Déjà, c'était des qualificatifs qui me paraissaient désolants. Et quelques mois plus tard, je rencontre Lalo Schifrin qui me fait avec son accent argentin. Et dites-moi, Nicolas, vous avez vu Eyes Wide Shut? Je dis oui. Vous savez, la critique américaine l'a descendu. Je dis je sais. Il me dit, mais moi, j'aime beaucoup le film. Et je dis, ben moi aussi, Lalo, j'adore le film. Et puis il me regarde, il dit, vous savez, dans 2001, on voit les hommes tout petits au milieu du cosmos, au milieu de l'infini. Et dans Eyes Wide Shut, vous voyez, l'infini est dans l'homme. Et ça m'a bluffé.
On va demander à Jean-Luc Godard son avis sur la question.
Je veux dire, je suis bien gentil de répondre à ces questions.
Jean-Luc Godard, que pensez-vous de 2001 de Stanley Kubrick?
Oui, mais c'est un faiseur. Super. Super joué, mais c'est un faiseur.
Vous dites ça de tous ces films?
Sauf peut-être le tout premier.
Barry Lyndon, non?
Oh non, surtout. Non. Pas du tout. Même bête.
Orange Mécanique?
Oh non, non. Non, Orange Mécanique, ça vaut pas Blow Up.
Orange Mécanique, ça vaut pas Blow Up. Nicolas? Voilà, je suis embêtée parce que là, Kubrick oppose deux films que j'aime énormément. Donc,
Orange Mécanique n'est pas mon Kubrick préféré. Et ça n'empêche pas d'ailleurs d'adorer Blow Up. Hein. Donc,
voilà, on est d'accord. Voilà. Moi aussi. Ouais. Alors Nicolas, on va passer au questionnaire. Quelle est la première séance dont vous vous souveniez?
C'est pas forcément la toute première séance, mais je me souviens d'être allé voir avec mon père et mon frère à l'Olympique Entrepôt en quatrième vitesse de Robert Andrich. Et mon père m'avait vendu le film en disant, tu vas voir, c'est très marrant, c'est un thriller. Et j'ai été absolument estomaqué par le film. J'avais jamais vu sur l'écran quelque chose d'aussi brutal, d'aussi violent. Et je me souviens qu'à la même époque, c'était en 80-81, quand j'ai vu le film, il y avait les albums des Clash. Et pour moi, c'était un film punk. Ça reste pour moi une expérience de cinéma, mais vraiment traumatisante, quoi. Mais c'est là que j'ai compris qu'il y avait une différence entre le genre et le style, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure.
Ouais.
Le style, et là, c'est le genre que le style m'intéressait beaucoup plus que le genre. Et le style, vous voyez, Persona, c'est un film qui fait peur, c'est pas un film fantastique, c'est un film de genre, mais il fait plus peur que des films qui sont qualifiés de films fantastiques.
Je suis d'accord.
Le style fait l'homme, comme disait Godard, d'ailleurs. C'est Godard qui a dit ça. Le style fait l'homme.
La dernière séance qui vous est marquée?
Ah ben, on va pas sortir de Godard. C'était 10 jours avant le confinement. Rétrospective Godard à la Cinémathèque. Sauf qui peut la vie. Donc, c'est ma dernière séance sans masque. Et je me souviens des gens qui toussaient dans la salle. C'était le lendemain de cette effroyable soirée des Césars. Et bon, le bruit courait déjà qu'on allait être confinés. C'était très étrange de voir un film qui s'appelle « Sauf qui peut, entre parenthèses, la vie », 10 jours avant le confinement.
Votre film de chevet?
Moi, j'ai pas de film de chevet. Vous en avez, vous, Michel? Moi, j'en
oui.
ai plusieurs. J'en ai plusieurs, moi. C'est lequel de vôtre?
À moi, c'est Le Troisième Homme.
Ah ouais, je comprends. Non, c'est-à-dire que pour moi, les films, c'est comme des amis. Pour moi, les films, ça donne la pêche.
Bah, vous n'avez pas un meilleur ami? Vous n'avez pas un meilleur ami?
Non, j'ai plein de très bons amis. J'ai M. Le Maudit, L'Amour aux Trousses, Monsieur Verdoux. Ben, j'ai Entre le ciel et l'enfer de Kurosawa,
ouais.
que je trouve un film absolument prodigieux, parce que c'est à la fois un thriller, c'est une chronique, c'est un film qui est à la fois complètement métaphysique et en même temps qui se permet d'être aussi un film social, mais sans être le reflet de la réalité. Le salon de musique de Serge Krek.
Non, stop. Il y en a trop.
Voilà, il y en a beaucoup, mais pour moi, disons que j'ai un film par état mental.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre?
Alors, j'en ai deux, en fait. Il y a La Dolce Vita. C'est un film dans lequel j'aurais vraiment aimé vivre. Et des fois, même si je n'y ai pas vécu, parce qu'il y a des choses que je reconnais dans ce film, alors que je ne les ai pas vécues, mais... Ça m'enchante totalement. Et dans un style complètement différent, il y a les films de Jonas Mekas. Voilà, Jonas Mekas, qui est ce cinéaste qui a filmé ses amis toute sa vie et qui a laissé une œuvre magnifique. Et on a envie d'être dedans.
Nicolas, on accélère. Le classique qui vous laisse de marbre.
Je ne sais pas si c'est un classique, mais c'est Les Tontons Flingueurs.
La pipe...
voilà, et en fait, tout ce cinéma de l'époque me laisse de marbre. Voilà.
La pépite que personne ne connaît.
J'hésite, mais... Travail au noir.
Ah oui, pas mal. Pas mal.
Moi, j'échange pas un plan de ce film contre tout quel autre.
Oui, je suis d'accord avec vous, totalement. Votre voix de cinéma préférée?
On va faire Un homme et une femme, non? C'est mieux.
Oui.
On va faire Orson Welles, Truffaut, parce que moi, la voix de Truffaut dans l'année américaine.
Ah non, il me faut une femme maintenant.
Monica Vitti et Catherine Deneuve. Voilà, vous en avez deux pour le prix d'une. Monica Vitti et Catherine Deneuve.
Votre salle de cinéma préférée?
Alors, pour les blockbusters, pour les gros films, c'est le Max Linder.
Mm-hmm.
Et pour les reprises, c'est plutôt les salles Christine, Studio Galant, tout ça.
Votre prochaine séance?
Alors, c'est un film qui va sortir, je crois, bientôt, qui s'appelle L'échiquier du vent, de Mohamed Reza Aslani. C'est un film iranien qui a été restauré, retrouvé par Carlotta, je crois. Et il paraît que c'est extraordinaire.
Votre vœu cinéphile?
Mon vœu cinéphile, c'est qu'on nous laisse plus libre et qu'on nous fasse plus confiance à nous, cinéastes. J'ai l'impression qu'il y a un déficit de confiance envers les cinéastes qui se vérifie de plus en plus avec le temps et je trouve ça très dommage. Moi, j'ai pas signé pour ça. Moi, au départ, je pensais faire des films sans gêner personne et j'ai de plus en plus de mal à raccourcir ce qui sépare mon envie de son accomplissement. Mais mon vœu, c'est de faire plus de films avec moins de difficultés.
Merci Nicolas Saada, merci d'avoir participé à cette émission. Demain, nous recevrons Arnaud Desplechin pour parler du Parrain. Je remercie à la réalisation Doria Zénine, à la préparation Lila Bozos et à la technique Dimitri Paz. Passez une bonne journée et à demain.